Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Quartier Libre où je suis ravie d'accueillir mon invitée qui est Hélène Sautriau, sage-femme en profession libérale. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue et on va ensemble redécouvrir, on va dire, le métier de sage-femme puisque on ne sait pas tout sur ce métier. Moi, j'imaginais que c'était uniquement faire des accouchements, mais c'est pas que ça. On va voir ensemble donc et puis on parlera peut-être un retour de la projection du film que vous avez où vous avez assisté au débat au Ciné-Étoile mardi dernier, le film qui s'appelle Loba. On fera donc le point là-dessus et puis nous parlerons bien sûr de la semaine mondiale de l'accouchement respecté. Alors qu'est-ce que l'accouchement respecté? On va le savoir dans une petite minute. Et voilà, donc Hélène Sautriau, sage-femme, en quoi consiste ce fabuleux métier qui est d'aider à donner la vie, mais pas que ça.
Je peux peut-être, en prenant le risque d'être un peu trop sérieuse, mais commencer par l'étymologie. Sage-femme, en fait, ça vient vraiment de la connaissance de la femme. C'est pour ça que les hommes s'appellent aussi des sages-femmes. Et donc, ça permet de définir notre champ d'action, qui est finalement assez large, puisque c'est autour de la femme.
Donc il y a beaucoup d'hommes sages-femmes.
Non,
ça reste
une petite proportion. Il y en a plus depuis que les études de sages-femmes passent par le cursus médical, donc par médecine, où des hommes choisissent le métier de sage-femme parce qu'ils ont été au niveau du numerus clausus retenus et qui peuvent entrer du coup dans les écoles de sages-femmes. Mais c'est assez anecdotique pour l'instant encore. Et voilà, donc c'est vrai qu'on est auprès des femmes de le début de leur vie de jeune femme jusqu'à la ménopause et après. Et donc on les accompagne pour les projets d'enfants comme pour les projets de contraception ou la gynécologie préventive. Donc, tout ça, c'est pas très connu.
Non, parce qu'effectivement, enfin, moi je pensais vraiment que c'était tout autour de l'accouchement, de la grossesse et éventuellement après un peu de suivi comme la rééducation du périnée, mais je pensais vraiment que c'était dans cette zone-là. Alors il y a aussi la contraception. On vient vous voir ou comment ça se passe?
Oui, on est en premier recours. En fait, les jeunes femmes, les femmes de tous âges peuvent venir consulter une sage-femme pour... un suivi, je dis bien, de prévention. Hein. C'est pas, on n'est pas médecin et on n'a pas de compétences au-delà de ce qu'on appelle la physiologie, c'est-à-dire une femme en bonne santé. Dès qu'il y a des choses qui posent problème, nous, on va travailler de pair avec les médecins pour leur adresser les patientes qui ont des problèmes particuliers. Mais ça permet de faire du dépistage. On peut, par exemple, proposer le dépistage du cancer du col avec les frottis qu'on propose régulièrement. Ça peut être fait par les sages-femmes. Voilà. Donc les femmes, elles viennent nous voir directement et on est des professionnels de santé pris en charge par la sécurité sociale comme les autres.
Donc vous avez un cabinet puisque vous êtes en profession libérale. Comment ça se passe?
Oui, alors il y a des sages-femmes hospitalières. Ça, c'est souvent la facette du métier qui est la plus connue que les sages-femmes qu'on rencontre au moment d'une naissance. Et moi, je suis installée en libéral, c'est-à-dire que j'ai un cabinet en ville et qu'on peut prendre rendez-vous au cabinet. Je fais aussi des visites à domicile dans certaines circonstances, mais la plupart de mon travail se situe au cabinet.
Alors, la différence, pourquoi choisir vous plutôt qu'un gynécologue, puisqu'il y a... On peut avoir la même demande pour la prévention, par exemple.
Oui, et c'est un peu pour ça aussi, j'allais vous dire, c'est quand même assez récent qu'on nous ait demandé de nous occuper de toutes les femmes, parce qu'avant, on s'occupait effectivement surtout des femmes en post-accouchement. Mais ça, c'est depuis 2009 seulement, et ça vient répondre justement à un manque de gynécologues médicaux pour faire le suivi des femmes. Et sachant qu'il y a aussi les généralistes qui peuvent avoir ces compétences-là, mais qui sont aussi parfois très pris pour d'autres choses et qui ne peuvent pas toujours accompagner les femmes. Ou pour des raisons de sensibilité, certaines femmes préfèrent avoir un autre professionnel pour la partie gynécologie. Donc pourquoi une sage-femme plutôt qu'un médecin? C'est vraiment le choix de chacune. Et à la fois, elles peuvent très bien continuer à... peut très bien voir un gynécologue, même si on est en bonne santé. En revanche, moi, encore une fois, je ne vois que les femmes en bonne santé quand il y a une pathologie qui existe, une femme qui a des problèmes déjà de fibromes, de saignements ou autre, elle va voir un médecin. Voilà, le choix est tout fait à ce moment-là. Après, c'est des questions d'affinité aussi. Et encore une fois, le rêve, c'est d'arriver à fonctionner bien avec les gynécologues pour justement pouvoir travailler ensemble, s'adresser les patientes quand ça nous pose question, et inversement, que les femmes puissent aller vers le professionnel avec lequel elles se sentent le plus en confiance.
Au niveau des études, est-ce que c'est le gynécologue passe par...
On passe tous par la première année de médecine. Après, nous, on a encore 4 ans d'études. Et les médecins, bien sûr, eux, ils ont beaucoup plus de formation parce qu'ils voient toute la pathologie. Donc, ils ont, c'est bien pour ça qu'on ne prétend pas du tout être à leur niveau de connaissance en pathologie. Par contre, on a un niveau de formation qui nous permet de faire un dépistage. Et après, on délègue. C'est important de connaître ses limites, quoi.
Oui, oui, oui. Donc, c'est assez récent. Vous dites depuis 2009,
ouais,
vous
depuis
avez...
depuis 2009, on nous a demandé de nous occuper de toutes les femmes, quoi.
Et alors, c'est curieux, plutôt que de faire venir des gynécologues, comment ça se passe?
C'est une histoire de santé publique, hein.
Ouais,
il y a un numerus clausus pour les médecins aussi. Et à un moment donné, on se retrouve en manque et... Nous, on n'était pas forcément partante au départ pour faire de la gynécologie, alors que pour ce qui est notre cœur de métier au niveau de l'accouchement, les femmes ne savent pas non plus qu'elles peuvent être suivies par une sage-femme tout au long de leur grossesse, à condition qu'elles aient une grossesse qui se déroule normalement. Et du coup, c'était plutôt là-dessus qu'on aurait aimé qu'il y ait de la communication et pouvoir récupérer du temps disponible chez les médecins pour qu'ils puissent s'occuper des femmes qui posent problème et laisser les sages-femmes accompagner les femmes qui sont en bonne santé. C'est pas ce qui a été décidé à ce moment-là par les gouvernements qui ont pris ces décisions-là et on nous a demandé de nous occuper de la gynécologie préventive. Après, je crois vraiment qu'il faut pas rentrer dans le... Il faut vraiment essayer de fonctionner ensemble parce que de toute façon, on est face à des femmes qui ont des envies toutes différentes et c'est très bien, plus il y aura de choix, plus il y aura de chances qu'elles se fassent suivre en confiance et après à nous de connaître nos limites et de répondre justement avec un travail en collaboration avec les médecins. Vraiment après je crois que c'est ça qui est un petit peu le scandale de notre société, c'est qu'on forme des gens à des choses très compliquées et puis finalement dans la pratique ils s'occupent parfois de choses pour lesquelles d'autres personnes ont des compétences. Et donc, c'est remettre la physiologie au cœur de notre métier, quoi.
Est-ce que vous êtes nombreuses sur le département?
On commence à l'être. Ça se développe un petit peu, justement, parce qu'il y a une demande vraiment des femmes. Il y a, je crois, une quinzaine d'années, là, il n'y avait qu'une sage-femme sur tout le département. Et là, maintenant... Je vais me tromper, mais si je fais vite le calcul, je crois qu'on est 7 ou 8 sur l'ensemble du territoire, qui est quand même assez
vaste. C'est quand même peu.
C'est quand même peu.
C'est quand même peu, oui. C'est impressionnant, parce que si vous allez à domicile, je ne sais pas, est-ce que vous êtes appelée à aller à domicile de temps en temps
Oui, alors on va au domicile des patientes, soit pour faire du suivi de grossesse, pour le coup pathologique, c'est-à-dire que la femme elle a un problème, elle a des contractions, elle est isolée, elle a besoin que quelqu'un vienne à domicile, il vaut mieux qu'elle reste tranquille chez elle. Et là, c'est un peu l'inverse de ce que je suis en train de vous expliquer sur le cœur de notre métier, c'est-à-dire que c'est le médecin, c'est sur prescription d'un médecin qu'on va au domicile de la patiente. Soit c'est des domiciles qu'on fait après l'accouchement pour aller voir les femmes une fois qu'elles rentrent chez elles pour faire un petit peu le lien avec la maternité et le domicile. Et là, c'est nous qui y allons, sans prescription particulière. Donc, dans tous les cas de figure, on s'est un petit peu réparti le territoire avec toutes celles qui sont installées pour essayer de façon logique de couvrir le maximum des espaces, de nos merveilleux espaces qui sont parfois pas très accessibles. Donc, personnellement, on est deux sages-femmes sur Digne, hein, y a Marie-Louise Renner aussi. Et on va jusqu'à Seine-les-Alpes et de l'autre côté, on va jusqu'à Anotte, Saint-André, Castellane. Voilà. Après, il y a toute une autre partie du département avec des sages-femmes sur Riez, Villeneuve, Manosque, Château-Arnoux.
Ça fait longtemps que vous faites ce métier ?
Ben, ça va faire 17 ans.
17 ans. Quelles ont été vos premières motivations ? Qu'est-ce qui attire quand on se lance dans ce métier qui demande quand même beaucoup de temps et de compétences ?
Alors là, c'est un peu le piège parce que j'y suis venue vraiment, c'est le hasard de la vie qui m'a menée vers ce métier parce que c'est justement, j'étais partie sur la filiale médecine. Je ne savais même pas ce que c'était que ce métier. Je croyais que c'était un peu des auxiliaires, des femmes qui aidaient d'autres femmes au moment de l'accouchement. Donc j'ai découvert vraiment, alors que j'étais inscrite à l'école de sage-femme, ce que c'était que ce métier. Donc maintenant, mes motivations, oui, elles sont tout autres. Et je sais pourquoi je fais ce métier maintenant. J'ai vraiment plaisir à accompagner les femmes dans la découverte de toutes les compétences qu'elles ont en elles. Parce qu'on en a toutes. Mmh. Et je trouve ça très valorisant, justement, d'aider l'autre à aller à la rencontre de ses propres ressources.
Parce qu'il y a, il faut des talents de psychologie aussi. Il faut, vous êtes un peu, vous apportez tant sur le plan physique, mais aussi moral.
Oui, tout à fait. C'est au moins aussi important que toute la partie médicale, de connaissances médicales. Et je crois qu'on apprend toute la vie, avec chaque couple qu'on accompagne, chaque femme, et chacune dans son individualité, voir quelle est la solution pour elle, que ce soit sur une question de contraception, ou que ce soit sur un projet d'enfant ou un projet de naissance en tant que telle. Voilà. Et comment on arrive à accompagner sans se positionner en face comme celle qui sait. Celle qui sait pour l'autre ce qui est bon pour lui. Et ça, je trouve que c'est passionnant, quoi.
Et quand vous avez commencé, donc vous n'étiez pas encore maman vous-même, est-ce que c'était un handicap ? Est-ce que vous avez eu des retours de maman plutôt agressive du fait de votre jeune âge ?
Je crois que parfois, oui, on perd un peu de crédibilité quand on commence, qu'on a 22, 23 ans et qu'on explique les choses aux femmes. Et c'est justement ça qui nous fait avancer. C'est quand les femmes, elles nous regardent en disant « Mais de quoi tu me parles là ? Tu sais pas ce que c'est ?» Ça remet en question. Et je pense, ceci dit, qu'il y a des sages-femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont très bien pour accompagner parce qu'elles ont compris ça. Elles ont compris que, justement, c'est pas le fait d'être mère qui va me donner une légitimité non plus. Mais quand même, ça m'ouvre sur, justement, les compétences de chaque femme et sur le, finalement, un peu l'humilité qu'il faut avoir face à une femme qui porte un enfant. On doit juste être en admiration et être là pour accompagner et intervenir au cas où, mais si possible, ne pas intervenir et la laisser faire.
Alors par rapport à la préparation, une fois que la femme est enceinte, qu'elle porte, est-ce que s'il y a toujours autant de préparation ou plus qu'il y a 10 ou 15 ans Est-ce qu'il y a une obligation de la femme enceinte d'être suivie, mis à part pour l'échographie il y a de plus en plus d'échographies au cours de la grossesse.
Je crois qu'il ne faut pas... On est quand même encore avec une liberté et il n'y a rien d'obligé. C'est vraiment après des recommandations. Bien sûr qu'on invite toutes les femmes enceintes à être suivies, à avoir un minimum d'examens médicaux, d'échographie. Après, c'est de comment on l'explique, justement. Pourquoi on fait des échographies ? Si on explique à la femme l'objectif d'un dépistage avant la naissance et que cette femme, elle nous dit « Mais moi, ça ne m'intéresse pas et de toute façon, j'accueille cet enfant quoi qu'il arrive et c'est son choix après. » Après, c'est comment nous, on se positionne avec l'ouverture qu'il faut pour accueillir aussi ces histoires-là. Donc, c'est tout ce qui est proposé, en tout cas, il n'y a rien d'obligé. La préparation à la naissance, c'est absolument pas obligé non plus. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas plus qu'avant, mais c'est quand même assez récent, en fait. Hein. C'est, ça a qu'une quarantaine d'années. Il y a, avant, les femmes, elles ne faisaient pas de séances de préparation. Et pourtant, elles accouchaient. je crois que ça, le besoin est de plus en plus important parce qu'on est dans une ère numérique avec énormément d'informations. Et que,
beaucoup de stress.
Et que trop d'infos tue l'info. Mmh. Et que je crois qu'on a besoin de faire le tri au milieu de toutes ces informations pour aller vraiment chercher celles dont on a vraiment besoin.
C'est vrai que maintenant, avec Internet, le moindre petit bobo, on va se dire qu'est-ce que c'est. Et on peut se faire peur tout seul en allant fouiller dans des choses...
Entre autres. Ouais. Après, je crois aussi, ça c'est un autre versant, c'est que depuis une cinquantaine d'années seulement, un petit peu plus peut-être, les femmes accouchent en milieu hospitalier. Avant, elles accouchaient chez elles. Mm-hmm. Ça s'est passé très vite. Hein. Je crois que c'est en l'espace d'une quinzaine d'années, on est passé de même pas 10% des accouchements à l'hôpital à 99% des accouchements à l'hôpital.
C'est quoi ? Ça a été une révolution
Ça a été la voiture. En fait, l'accessibilité, finalement, de la plupart des ménages à un moyen de transport assez facile qui permettait justement de rejoindre une maternité. Et donc, ça se situe dans les fin des années 50. Et en fait, ça a basculé. Du coup, c'était plus les sages-femmes qui se déplaçaient au domicile des femmes, mais c'était les femmes qui allaient à l'hôpital. Et c'est sûr qu'on a gagné en sécurité par rapport aux grossesses difficiles qui parfois pouvaient mal se terminer quand on était seul à la maison. En revanche, on n'a pas gagné pour tout ce qui est grossesse normale et où là, le fait de ne plus être chez soi, ben on se retrouve en situation de stress.
Et oui, parce qu'on va quand même dans le service hospitalier. Enfin, c'est quand même très médicalisé et ça peut être rassurant comme ça peut faire peur à une personne qui n'est pas habituée à aller à l'hôpital. Oui, on le dit bien, quand on est enceinte, on n'est pas malade au départ.
Oui, et la sécurité médicale, je pense qu'elle est quand même là pour la plupart des femmes. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais ce n'est pas la même chose que la sécurité affective. Mmh. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que quand on a gagné en sécurité médicale, on a perdu en sécurité affective parce qu'on s'est retrouvé dans un univers qui, même si les gens sont vraiment bienveillant et sympathique et accueillant, mais on n'est pas chez soi, on n'est pas avec des gens connus. Et du coup, on a créé les séances de préparation à la naissance pour aider la femme à se préparer à ce qui allait se passer. Voilà, c'est un petit peu artificiel finalement. Mais à mon avis, c'est de plus en plus nécessaire. Contrairement à ce qui est parfois véhiculé comme idée que bah, maintenant qu'il y a l'anesthésie péridurale, les femmes n'ont plus mal, donc elles n'ont plus besoin de se préparer.
Et justement, où est-ce qu'on en est avec la péridurale ? Parce que pas toutes les femmes la demandent. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui refusent et qui veulent vivre leur accouchement comme quelque chose, une expérience fantastique et unique
Je crois que oui, il y a plein de réponses à cette question. Oui, il y a des femmes qui ont envie de le vivre sans. Il y en a d'autres qui... ont très très peur, mais pour une raison ou une autre, finalement il n'y a pas d'anesthésie parce que soit il n'y a pas le temps, soit il n'y a pas de possibilité parce qu'il y a une contre-indication. Enfin, de toute façon, la péridurale est un outil fantastique pour agir sur la douleur, mais ça n'agit pas sur la peur. Alors c'est sûr que quand on a moins mal, on a moins peur, mais c'est intéressant de comprendre quel est le processus de l'accouchement et comment on va pouvoir accompagner cette femme avec ou sans cette douleur, mais de toute façon, l'accompagner vers l'arrivée de son bébé, quoi. Donc oui, la péridurale, c'est à la fois un petit peu banalisé, et puis les anesthésistes sont très rodés dans ce geste-là. Et en même temps, je crois qu'on commence à prendre un petit peu conscience que ça a aussi un effet sur le déroulement des accouchements et que c'est pas la panacée non plus. Donc si on veut essayer d'accueillir un enfant le plus naturellement possible, il faut se rendre compte que la péridurale entraîne des difficultés. Alors sans faire peur, hein, parce que c'est vraiment un outil fabuleux, mais ça a aussi un effet. ne faut pas se leurrer, ça a un effet sur l'organisme, sur tout ce qui normalement se passe au moment d'un accouchement. L'enfant, lui, il n'en a pas de péri, donc il vit les choses complètement différemment et il est un peu coupé de ce que vit sa mère. Par exemple, il est plus, une femme qui n'a pas de péri, elle va respirer plus profondément parce que la douleur fait qu'elle augmente sa fréquence respiratoire.
Ouais.
Donc elle va oxygéner son sang pour aider son bébé. Quand elle n'a plus mal, elle ne fait plus ça, donc elle n'aide pas son bébé. Donc c'est toujours intéressant de préparer la femme à ça pour que même si elle a cette anesthésie, elle continue à oxygéner correctement son bébé en ayant des respirations assez, un peu plus profondes, etc.
Alors il y a longtemps, hein, parce que mon expérience personnelle elle est assez ancienne maintenant, mais à l'époque on faisait la respiration qu'on appelait la respiration du petit chien.
C'était vraiment ça partait des travaux de chercheurs, je crois que c'était des Russes au départ, qui avaient vraiment travaillé sur le cerveau en disant puisque c'est un acte physiologique l'accouchement, puisque c'est un acte naturel, normalement, ça ne devrait pas faire mal. Donc, si ça fait mal, c'est que le cerveau, il envoie des messages de douleur, mais il ne devrait pas, il faut aller court-circuiter tout ça. Donc, on va l'occuper à autre chose. Comme ça, en gros, il va oublier de nous dire qu'on a mal. C'est le même système qu'on utilise avec les animaux quand on leur envoie une décharge électrique pour leur faire passer un message nerveux. Et on se conditionne, en fait. C'était un conditionnement. Ça a marché hein, pour certaines, mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes pour qui ça a été terrible parce que ça n'a pas du tout fonctionné et que du coup c'est encore plus catastrophique. Et que là aussi c'était quelque chose de très extérieur. On a compris comment il faut que vous fassiez. Bon, il se trouve que c'était des hommes, hein, ces chercheurs-là, mais... je crois que...
Moi, j'avais l'impression que c'était très utile, justement, par le fait de s'oxygéner. Voilà, oui, on est hyperventilé, quoi.
L'hyperventilation, vraiment, elle ne permet pas l'oxygénation parce qu'on n'a pas le temps d'inspirer correctement. C'était plus pour travailler sur l'attention, qu'elle se concentre sur quelque chose.
C'était pas quelque chose qui pouvait être bénéfique pour le bébé
Pas vraiment, c'est pour ça que ça a été un peu abandonné. Avec toute la... un peu la philosophie qu'il y avait aussi derrière, dans le côté où il fallait que les femmes, elles se préparent et elles avaient une pression aussi monumentale. C'était des cours, vraiment, où il fallait écouter, où on était presque notés. Enfin, des témoignages que j'ai eus de femmes qui ont connu ça, c'était vraiment ça. Je crois qu'entre les deux, il y a encore autre chose à inventer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, d'aider la femme à aller sentir qu'elle sait faire. Même si elle ne sait pas, même si c'est son premier, mais son corps, lui, il va savoir faire. Et de l'autre côté, aussi utiliser les moyens qu'on a, si elle est dépassée, que ça ne devienne pas une souffrance, que ce soit douloureux, ça, je crois qu'il faut arrêter de faire croire qu'on peut faire sans douleur. Qu'est-ce qui est sans douleur ? La vie, à partir du moment où on est vivant, on ressent des choses. Après, c'est comment on peut l'accompagner, cette douleur ? Pas la gérer. Ça, c'est un terme que je bannis de mon vocabulaire avec les femmes. On ne gère pas, on ne contrôle pas. Si on gère, on est déjà trop dans une espèce de maîtrise qu'on n'aura pas. Voilà, donc, c'est plutôt se laisser submerger par cette douleur et la laisser nous transformer et l'accompagner. Et comment accompagner les peurs qu'elle va engendrer, quoi.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et on va écouter Candice qui chante « Je suis deux » et on se retrouve bien sûr dans un instant.
Ton état est mien, je réponds que nous allons à ravir, je dis pas je. Les gens croient que c'est pourri, que je plaisante, que je les illusionne. Parce que ce que ne devine personne, c'est ta présence dans la mienne. Pour qu'un jour, à la vie, tu adviennes. Il ne voit pas, j'ai croqué la pomme, osé l'ultime péché en somme, réalisé le plus haut de mes rêves, d'être ton origine, ton Ève. Je suis deux, je suis deux, je suis deux. Papa s'appelle pas Adam, mais ses dents à lui sont si belles qu'il te dévora d'amour paternel. Il t'attend avec appétit pour te faire découvrir la vie, te donner le goût du bonheur à chaque seconde et à chaque heure de l'appétit. Moi, j'en ai moins, mais c'est un signe que j'aime bien. Mes hormones font une ascension qui me donne la nausée du ventre au front. Et si on ne veut pas me croire, qu'on me visite le matin ou le soir de la démonstration, si on veut, je peux en vomir un peu. Je suis de, 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 je suis de.
Et on reprend cette émission Quartier Libre en compagnie de Hélène Sautriot, sage-femme en profession libérale. On fait un petit peu le tour de ce métier qui est quand même assez méconnu pour la plupart des citoyens, citoyennes. Moi, la première, hein, je vous parlais de, on voit essentiellement le côté accouchement, alors que ben, c'est pas que ça. Il y a la préparation avant, après, et puis aussi donc tout ce qui est prévention.
En gynécologie,
voilà. Et on vous demande certainement beaucoup aussi de psychologie, de diplomatie, parce que voilà, c'est aussi le côté humain de ce métier, c'est d'accompagner aussi, d'être là pour rassurer.
Oui, et je crois que pour rassurer, c'est la meilleure des choses, c'est de commencer par voir. Où en est la femme? Qu'est-ce qu'elle souhaite, elle? Qu'est-ce qu'elle sait déjà du fonctionnement de son corps? Qu'est-ce qu'elle sait déjà de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas? Il y a encore plein d'inconnus, que ce soit pour une grossesse ou une contraception. Mais tout le monde a des connaissances, justement, tout le monde a eu des infos, soit de sa famille, soit d'Internet. Et on part de ça. Donc c'est par là qu'on commence à rassurer les femmes. C'est pas forcément... Avec vraiment une approche psychologique, c'est plutôt déjà d'écoute et de comprendre qu'est-ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En général, je commence toujours par ça. Mmh. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça me permet de voir qu'est-ce qu'elles viennent chercher.
Alors, on va revenir au fait de ce qui a évolué. Ça fait donc 17 ans que vous faites ce métier. Les choses ont dû changer dans la façon d'accompagner les personnes et lors de l'accouchement aussi. Bon, ça s'est beaucoup médicalisé depuis quelques années. On en a parlé juste avant. Il y a du bien et du moins bien dans ce côté-là, il y a la péridurale qui permet de moins souffrir, et puis évidemment cette hygiène qu'on peut retrouver à l'hôpital, mais en même temps on perd un peu de contact. Alors il y avait la naissance sans violence il y a quelques années, qui permettait de préparer aussi à ce que le bébé soit accueilli sans avoir la pleine lumière sur le visage quand il apparaît au monde, et la musique, la naissance dans l'eau. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Je crois que je voudrais être optimiste et dire que ça a bien évolué quand même, parce que je crois que les sages-femmes, justement, mes collègues là, qui travaillent à l'hôpital, elles ont en 15 ans. Moi, je suis à Digne depuis à peu près ça. J'ai vu vraiment l'évolution. Il y a 15 ans, une femme qui arrivait qui disait « moi, j'ai pas du tout envie de m'allonger pour accoucher ». On l'a regardée en disant « ouais, je vous comprends un peu, mais là, ça va être difficile. » Ou alors, on va demander l'autorisation au médecin, exceptionnellement, que vous puissiez rester. Maintenant, c'est une évidence. La femme, elle se met dans la position qu'elle veut. Il y a des femmes qui accouchent même pas sur la table d'accouchement. Enfin, on appelle ça une table, mais c'est un lit un peu d'accouchement. Mais elle va rester dans les bras de son homme, suspendue, et on va se débrouiller pour glisser un petit matelas, qu'elle soit quand même confortable, que ce bébé arrive dans la douceur. Et elles font vraiment des choses formidables pour...
Ça se fait à l'hôpital ?
Oui.
Il y a cette ouverture-là,
en tout cas pour les hôpitaux du 04 que je connais. Hein. Après, il y a encore plein d'endroits où c'est de la science-fiction. Et puis, c'est valable pour une femme qui peut encore se mobiliser. Dès lors qu'on a la péridurale, on est quand même très coincé par tout l'attirail médical qu'il y a autour. Donc, tout ça, je crois que les sages-femmes, elles ont beaucoup évolué, compris que la femme avait les réponses en elle au niveau des positions, de tout ça, que c'était quelque chose qu'il fallait la laisser bouger, et que c'était d'ailleurs beaucoup plus facile d'accompagner ces contractions si on était dans le mouvement que si on les subissait allongées sur le dos. Après, il y a tous les protocoles hospitaliers, il y a, je vous disais, le lieu déjà qui fait que c'est un petit peu insécurisant d'être dans un lieu, même si c'est très joli, même si les gens sont très gentils, c'est pas chez nous. Et l'accouchement, c'est un acte instinctif. C'est géré par le cerveau profond. C'est comme les autres actes de survie, comme la reproduction, l'allaitement, l'accouchement. On peut difficilement faire ça en public, avec des gens qui nous observent, dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et on le comprend très bien pour la reproduction, hein. Même dans un couple, je le dis souvent par provocation, mais si un couple est en train de faire l'amour et puis qu'il y en a un des deux d'un seul coup qui sort du cerveau profond et qui se met à parler et qui dit « ah, au fait, il faut que tu rappelles ta mère », on n'y est plus du tout là. Et pour l'accouchement, on n'a pas encore tout à fait bien compris que c'était vraiment ce cerveau profond qui régulait et que pour ça, la femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. Alors ok, elle est en sécurité médicale, mais comment on fait pour lui procurer la sécurité affective, comment on évite de lui parler, de chiffres, de dilatation, de durée, de tout ça, parce que ça la fait réfléchir, donc ça la fait remonter dans le cortex. Et ça, je crois que c'est encore compliqué et que tous les protocoles viennent complètement à l'opposé de ça. J'en profite pour dire qu'il y a quelques années, grâce à un ami agriculteur, j'ai vu la naissance d'un veau. Et quand je suis entrée dans l'étable, la première chose qu'il m'a dit, c'est vous parlez pas parce que ça la dérange. Et là, je me suis dit, d'accord, ils ont compris ça pour les vaches, ils ont encore pas compris ça pour les femmes, quoi. Donc c'est quelque chose. Je crois qu'il y a tout cet environnement qui a en partie évolué. Je crois que les sages-femmes l'ont bien compris, mais il y a encore des peurs extérieures et des peurs médicales qui font que on a tellement la notion que l'accouchement c'est dangereux que ça peut se dégrader d'un seul coup, ça, c'est une illusion. Hein. On sait très bien quand même repérer les accouchements qui posent problème et qui effectivement peuvent se dégrader d'un coup, de ceux qui n'ont pas de raison de dégénérer. Et puis si jamais il se passait quelque chose, on n'est quand même pas non plus à 3 jours de marche du premier dispensaire. On a une chance incroyable. Donc... voilà, comment on fait pour aider cette femme à trouver cette sécurité-là et qu'elle puisse rester dans son cerveau profond. Donc une des choses, c'est qu'on a justement demandé aux compagnons d'être présents. Ça, c'est assez récent aussi. Hein.
Oui, c'est combien d'années ?
Je dirais que c'est à peu près depuis qu'on a emmené les femmes à l'hôpital, peu de temps après, on s'est rendu compte que l'hypermédicalisation les insécurisait. Donc on s'est dit, on va mettre le papa, là, le futur père avec elle. Donc, voilà, les hommes ont les responsabilités de la sécurité affective, sauf qu'eux, on ne leur a pas forcément demandé leur avis et que je crois qu'ils ne sont pas forcément préparés à ça.
Voilà, il faut les préparer parce qu'il y en a qui ont l'âme sensible et qui peuvent se trouver mal. C'est quand même impressionnant. Enfin, moi, j'ai assisté à l'accouchement d'une amie, puisqu'elle ne pouvait pas... Et j'ai mieux compris que certains hommes soient un peu réticents Parce que c'est quand même impressionnant d'assister à, enfin, en fonction bien sûr de la personne qui met au monde l'enfant.
Mais qu'est-ce qui est impressionnant? Moi, j'ai du mal à... J'ai jamais fait l'homme, hein, donc je ne sais pas exactement ce qui peut les traverser, mais qu'est-ce qui vous paraît impressionnant? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est impressionnant. Est-ce que c'est impressionnant de voir un petit être qui vient à travers le corps de sa mère? Est-ce que c'est la douleur de l'accouchement qui est impressionnante, ou est-ce que c'est la médicalisation, justement, de cette femme?
C'est un peu un tout, je dirais, de voir la, enfin, moi c'était une amie, mais de voir cette personne souffrir, même si moi j'étais déjà passée par là, j'avais déjà accouché quelques années auparavant, mais c'est de je me rappelais plus, par exemple, que la tête elle venait pas d'un seul coup, et alors de voir les cheveux comme ça, et puis un peu une certaine excitation, panique un peu, en fonction de comment ça se passe, il y a quand même des tensions. Et puis quand le bébé est né, enfin, moi j'avais été choquée par la déformation de la tête, quoi. Ouais.
C'est en ça, je pense, qu'il faut préparer les hommes, les accompagnants, quoi, à la puissance de ce qui se passe. J'aime bien, il y a un texte comme ça d'une chanteuse québécoise qui dit « Au cœur de la violence, je découvre la puissance ». Et je pense que c'est une des clés, c'est si on transforme ce qui pourrait être vraiment ressenti comme violent, comme étant puissant. Et c'est très impressionnant de voir cette puissance du corps de l'autre, hein, de sa compagne, de l'avoir traversée par des choses qui paraissent... Elle est transformée, quoi. Elle n'est pas comme d'habitude. Ça peut faire très, très peur et être très impressionnant. Si on est préparé, si on nous a expliqué que c'était... Elle est faite pour ça, que le corps, il va nous aider. Il va fabriquer tout un tas d'hormones qui vont aider ce processus-là. Et que si, justement, elle se transforme, si d'un seul coup, par son cerveau profond, elle se met à être la tigresse qui va sortir ses griffes parce que non, me touche pas, ou là, un peu trop fort, un peu plus à gauche, enfin, qui va donner des ordres comme ça. C'est pas qu'elle est complètement submergée par la douleur et qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, ou que lui-même, il sait pas, il a fait quelque chose de mal. Non, ça veut dire que c'est bon, elle lâche. Elle est plus dans la petite formule de politesse qui va bien autour, ou s'il te plaît, mon chéri, est-ce que tu peux mettre ta main? Non, elle est la louve, elle est la tigresse qui met son petit au monde, et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et ça, même les sages-femmes, parfois, on a du mal à l'accepter, ça, à la laisser, cette femelle mammifère qui fait ce qu'elle a à faire, et nous, être juste là en disant « laissez-la faire ». Et le stress est communicatif, donc le stress peut inhiber tout ça. Et je crois que ça, je le vois dans ma pratique, et peut-être les hommes que j'ai rencontrés pourraient en témoigner. Quand on leur explique ça, quand on leur explique les hormones de l'accouchement, qui sont il y a certaines hormones qu'ils connaissent eux-mêmes, hein, parce que, par exemple, l'ocytocine, on en fabrique aussi quand on est un homme, quand on est bien, quand on passe un bon moment avec des amis, quand on est... c'est l'hormone du lien. C'est l'hormone qu'on fabrique quand on fait l'amour. Donc, on ne sait pas que c'est ça, mais c'est... on en fabrique tous. Après, il y a aussi toutes les endorphines, donc les dérivés morphiniques qu'on sécrète pour nous aider face à la douleur. Et ça, tous ceux qui sont un peu sportifs, ils connaissent très bien. Sinon, pourquoi ils courraient pendant des heures alors qu'il n'y a personne qui les poursuit, quoi? C'est bien parce qu'ils cherchent à fabriquer ces dérivés morphiniques qui vont leur faire du bien. Et la femme, elle va fabriquer ses endorphines. Alors, elle va ressentir des choses très douloureuses, mais elle va être aidée par ses endorphines. Et ça a comme résultat, effectivement, de la mettre dans un état un peu second, un peu service minimum, quoi. Elle n'est pas là pour discuter avec tout le monde, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Et quand ils comprennent ça, bah, du coup, ils sont plutôt même rassurants, en disant « Ah, ça y est, là, elle commence à sortir ses griffes, c'est bon signe, c'est que le processus est en route. » Donc, ils peuvent être très aidants dans ces cas-là, en jouant un rôle très protecteur autour, en disant « Laissez-la faire ». C'est ma lionne, et qu'est-ce que je suis impressionnée par cette puissance qu'elle a en elle, parce que ça aussi, ça les interpelle, mais en même temps, ça crée beaucoup de, je crois, d'admiration, et ça, je pense que ça a aussi une valeur dans l'histoire du couple, hein, comme disait un homme un jour, waouh, quand on a vu cette force-là, quoi, on regarde sa femme autrement. Puis après, on a un peu peur qu'elle nous refasse ça une autre fois en dehors de l'accouchement. Mais voilà, je crois que ça vaut le coup. C'est pas juste pour dire on veut accoucher sans aide extérieure ou sans les moyens modernes qui existent actuellement. Non, je crois que c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller découvrir de sa propre, de ses propres compétences. Jusque là où on peut aller, parce qu'après, il n'y a aucun jugement, aucune note, et tout dépend des circonstances de l'accouchement et de l'accompagnement qu'il y a autour.
Donc, vous accompagnez les femmes avant, après ou pendant leur grossesse, et vous recevez aussi les maris ou les compagnons, alors, pour les préparer, eux aussi, au moment où s'ils veulent...
Mais de plus en plus, en fait.
Ouais.
Je me rends compte que, bien sûr, j'accompagne tout le monde, mais je serais plutôt pour essayer de faire passer le message que finalement c'est surtout les hommes qui doivent un petit peu se préparer à ça, à ce changement-là. Parce que la femme, si on a fait un suivi ensemble, si c'est moi qui suis leur grossesse, c'est un peu ce à quoi je m'attelle dès la première consultation, à leur dire « Attendez-moi, j'ai vraiment un gros handicap par rapport à vous, c'est que moi je suis pas en permanence avec vous-même, donc il y a des infos que j'aurais pas, et vous avez ces informations-là, et voilà, vous êtes compétente pour comprendre, pour savoir comment va votre bébé, pour... Donc ça grandit petit à petit, et voilà, l'accouchement c'est une étape de ce processus, mais elles y viennent. Pour les hommes, c'est autrement. Donc moi je les invite vraiment à venir, pas forcément... de façon très régulière et suivie, hein, mais au moins qu'on puisse évoquer tout ça.
Alors vous parlez que ça peut rassembler, créer des liens forts quand l'homme assiste à l'accouchement, mais souvent il y a l'après et la femme et l'homme ont un peu du mal à se retrouver parce que ça casse en même temps quelque chose, puisqu'après il y a la fusion entre la mère et l'enfant. L'homme, il a un peu du mal à retrouver sa place d'amoureux aussi, puisqu'il y a la mère qui a pris la place. Et ça aussi, c'est un passage difficile dans les couples en général. Il y a beaucoup de séparations aussi, des fois, dues à l'arrivée d'une tierce personne.
C'est pour ça que ça fait aussi pour moi partie de la préparation. C'est pour ça que la préparation à la naissance, c'est vraiment la préparation à la naissance, donc à l'arrivée de ce bébé, donc au moment de l'accouchement, mais à tout ça après. Il y a Marc Pillot, qui est un pédiatre, qui dit très bien qu'au niveau neurologique, l'enfant, il a encore besoin... C'est un peu comme s'il avait un quatrième trimestre de grossesse au niveau neurologique. Au début, il n'est vraiment pas du tout mature pour avoir un rythme jour-nuit, pour pouvoir exprimer clairement ses besoins, etc. Donc ce premier trimestre de la vie de l'enfant, c'est un peu le quatrième trimestre de la grossesse, c'est une période un peu de chaos, et si on ne s'y est pas préparé, si on a juste l'idée qu'ont beaucoup, hein, de « Ah, bah, de toute façon, c'est 3 jours à l'hôpital après l'accouchement, et après tu rentres chez toi, et puis c'est bon, c'est reparti. » Éventuellement, maintenant que les hommes, lorsqu'ils sont salariés, ont droit à quelques jours de congé supplémentaire, on se dit allez hop, c'est 2 semaines parce que voilà, les pères ils peuvent avoir 2 semaines, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas 2 semaines, c'est plutôt un trimestre. Et ce trimestre là, plus on a conscience qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir trouver ses marques et que la fatigue est mauvaise conseillère, donc on a intérêt à voir comment on peut s'économiser en énergie, tout ça. Effectivement, ça peut être explosif. Et moi, je prends souvent l'image du mobile, quoi. On était en équilibre, tout tranquillement, là, ça bougeait à peine, mais on était à 2 sur une petite tige, là, suspendue, et puis, hop, on met un troisième élément. Il va falloir un certain temps avant que ça s'équilibre, et à chaque fois qu'on en rajoute un, et a priori, à chaque fois qu'on en enlève un aussi, après, quand les enfants s'en vont, ça recommence, hein.
Donc, ouais.
c'est bien le côté vivant du couple aussi. Mais je crois que ça aussi, on s'y prépare, et là aussi, hein, je ne me positionne pas du tout comme celle qui arrive avec une mallette de solutions parce que ça ne peut pas marcher. C'est vraiment chaque couple qui doit trouver ses ressources, ses solutions. Et mon rôle, il est de les accompagner, d'essayer de mettre en évidence tout ce qui va bien, de mettre en évidence tout ce qu'ils font bien, de répondre un peu à des questions qui les inquiéteraient trop. Mais pas du tout de venir leur dire comment il faut qu'ils fassent et à quelle heure il faut qu'ils se couchent comment il faut qu'ils fassent avec leur enfant. Et c'est dans la continuité. Hein. Mais c'est un petit peu le système actuel. Hein. J'ai souvent dit, on médicalise le suivi de grossesse. On sait pour la femme ce qui est bon pour elle, parce qu'on est quand même très intelligent. On a fait des études médicales et tout, donc on sait plein de choses. Au moment de l'accouchement, on sait, on va l'accoucher d'ailleurs. C'est nous qui l'accouchons parce qu'on sait faire. Et puis par contre, juste après, on va leur confier un enfant et on va les renvoyer chez eux en disant, allez, hop, maintenant vous êtes compétents. Ils ne l'étaient pas pendant la grossesse, parce qu'ils n'avaient pas fait médecine, ils ne l'étaient pas au moment de l'accouchement. Mais là, d'un seul coup, ils sont compétents pour être parents. Et on s'étonne qu'ils reviennent une semaine, 15 jours après, aux urgences, parce que l'enfant pleure, parce que l'enfant dort pas, parce que l'enfant... Mais moi, je ne trouve pas ça très étonnant. On ne va pas acquérir une compétence comme ça, alors qu'on nous avait dit tout au long de la grossesse qu'on ne l'était pas. Donc c'est pour ça que c'est là où je trouve que le métier de sage-femme, il est passionnant. Il est dans, justement, construire autre chose pour être dans une médecine d'accompagnement à la physiologie, quoi. De vraiment être là en cas de problème, mais de surtout pas venir déstabiliser cet équilibre qui est la physiologie, l'équilibre de tous ces facteurs médicaux, psychiques, de sécurité, tout ça, qui font que c'est pour ça que ça va bien se passer.
J'ai envie de revenir sur les différents moyens d'accoucher une femme. Tout à l'heure, j'ai juste survolé, il y avait la méthode d'accoucher dans l'eau. Ça s'est fait pendant un temps à l'hôpital de Pertuis, la maternité de Pertuis.
À Pertuis.
Pertuis, pardon. Et puis, ça se fait plus du tout.
Mais c'était une légende urbaine, hein, parce qu'il n'y a jamais eu d'accouchement dans l'eau. Il y avait simplement une baignoire pour le temps du travail, en fait, pour pouvoir
se détendre.
Voilà, se détendre.
Mais l'accouchement dans l'eau ne se faisait pas.
Non, il y en a dans la région. Il y a une clinique à Vitrolles simplement qui propose encore quelques accouchements dans l'eau, mais c'est assez rare. C'est assez rare parce que c'est pareil, c'est une autre vision et ça va pas avec tous les protocoles. Et encore une fois, quelque chose qui est très naturel, une femme enceinte, elle peut être très attirée par l'eau et avoir envie d'être dans l'eau pour se détendre pendant le travail et pour accoucher. Mais dès lors qu'on est en milieu hospitalier, en fait, on est dans un bouillon de culture avec les germes de tous ceux qui sont passés par là, malgré l'acharnement à vouloir absolument rendre le milieu le plus stérile possible. C'est le pire endroit pour justement aller mettre une femme dans l'eau chaude qui va rester. Donc ça pose des problèmes qui font qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes qui s'y risquent, alors que c'est un truc très intéressant. Hein. Donc il y a des pays qui le font encore. En France, c'est quand même très anecdotique. Après, il y a les femmes qui le font lorsqu'elles accouchent chez elles. Et où là, elles ont une espèce de petite piscine gonflable d'accouchement qui ressemble à une baignoire, mais où elles vont pouvoir se détendre. Et là, c'est possible. Parce qu'elles sont dans leur environnement. Il n'y a pas tout ce protocole médical et de recherche de la stérilité.
Et pour en revenir aux accouchements à domicile, puisque je sais qu'il y a eu de grosses demandes il y a quelques années aussi, où la femme avait envie de se réapproprier son corps et son envie d'accoucher à la maison avec des bougies. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est facile encore? Est-ce qu'on peut appeler une sage-femme et dire je veux que vous me suiviez et que vous m'accouchiez à la maison?
Non, alors c'est très difficile justement parce qu'il y a très peu de sages-femmes qui accompagnent. Parce que déjà, ça implique une disponibilité 24 heures sur 24, que c'est un engagement au niveau responsabilité parce qu'on est seul face au couple. Qu'évidemment, c'est une sélection très rude. Il s'agit que de gens d'abord bien sûr volontaires, motivés, où il n'y a aucun problème médical tout au long de la grossesse et pendant le travail, parce que jusqu'à la dernière minute, on peut dire, il n'y a rien de très grave, mais il y a un petit quelque chose qui nous fait dire que, hop, on va à la maternité. Donc, c'est quand même pas à toutes les femmes. Dans la région, c'est aussi la géographie qui nous limite. Hein, une femme qui veut accoucher au mois de janvier à la Foudalos, elle accouchera pas à domicile. Pourtant... Il y a peut-être des risques qu'elle accouche dans le camion des pompiers, ce qui n'est pas forcément idéal, mais il n'y a pas de sage-femme qui prendra le risque d'aller les accompagner à distance d'un hôpital, parce qu'en cas de problème, voilà, il y aurait un trop grand transfert, temps de transfert. Donc alors il y a cette problématique des sages-femmes. Mmh. Et puis il y a un peu la problématique, je trouve, de la raison qui fait choisir l'accouchement à la maison. Quand les femmes, je vous parlais du siècle dernier où elles accouchaient toutes chez elles, l'hôpital c'était l'horreur absolue. Aller à l'hôpital c'était un peu signe que c'était soit que ça se passait très très mal et qu'au bout de je ne sais combien d'heures de travail, la sage-femme finissait par dire eh ben, il faut aller à l'hôpital, donc c'était un peu la mauvaise nouvelle parce que ça voulait dire que c'était vraiment très grave. Ou alors c'était les femmes en grande précarité qui n'avaient même pas de domicile. Ou des servantes qui avaient été abusées par leur maître, ou des situations assez dramatiques. Donc, quelque part, la maison n'était pas du tout insécurisante, même s'il y avait ce stress, bien sûr, en cas de problème. Mais, et en même temps, elles n'avaient pas vraiment le choix. Il n'y avait pas vraiment d'accès à l'hôpital, facilité, etc. Là, maintenant, on pourrait dire qu'on... Potentiellement, on pourrait avoir le choix, mais on ne l'a pas vraiment du fait du manque de sages-femmes et de soutien des sages-femmes, je vais y revenir. Mais en plus, je pense que ça s'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des demandes de couples qui voulaient accoucher à la maison parce qu'ils ne voulaient surtout pas aller à l'hôpital. Et ça, c'est un problème aussi. Mmh. Parce qu'on ne fait pas les choses par peur. Parce que peut-être qu'il faudra quand même aller à l'hôpital de toute façon. Donc, c'est plutôt voir la vraie raison. De quoi on a envie. Et effectivement, c'est là qu'on arrive à cette fameuse semaine de l'accouchement respecté. C'est comment on fait pour vivre encore des naissances respectées aujourd'hui. Parce qu'on peut le faire dans les hôpitaux, mais il faut aussi réfléchir et savoir dire les choses, dire ce qui nous fait du bien. La sage-femme en face, elle n'a jamais vu la femme, elle ne peut pas non plus deviner ce qui est important pour elle. Et voilà. Donc après, pour les sages-femmes à domicile, qui font des accompagnements à domicile, c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment une croyance justement, on fait ça à la bougie, sans eau ni électricité, que c'est un peu des sorcières qui font n'importe quoi. Alors que non, c'est très encadré. Justement, si les couples y font appel à une sage-femme, c'est bien pour amener un peu de sécurité médicale à la maison. Donc, on ne vient pas les mains dans les poches. Bien sûr que si pour les gens, c'est confortable d'être chez eux et de mettre des bougies, évidemment que ça crée une ambiance chaleureuse pour eux. Mais qu'il y a aussi tout le nécessaire, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a... Voilà. Et puis, du coup, il y a quand même une tentative du monde médical pour empêcher à tout prix les accouchements à domicile, ce qui ne va pas du tout avec notre territoire, hein, parce que, comme on le dit parfois avec mes collègues, à ce moment-là, il faut fermer les pompiers, hein, parce que de toute façon... Quand on est déjà à 1h30 de la maternité, ça arrive qu'il y ait des accouchements qui se passent hors maternité. Et pourquoi prendre le risque de prendre la route en hiver alors que ça pourrait se passer bien à la maison si c'était la sage-femme qui pouvait se déplacer et...
Alors comment justement les risques pour vous, c'est à qui appartient la décision? Est-ce que c'est vous-même qui êtes en droit de dire ok, tout se passe bien, j'accepte, je serai là pour venir chez vous, ou est-ce qu'il y a le corps médical, on sait qu'il y a une grosse pression.
Oui, mais c'est la responsabilité de chaque sage-femme d'accepter ou non d'accompagner un couple en fonction de comment se passe la grossesse et puis de où est-ce qu'ils vivent et quel est leur projet, comme je vous disais. Hein, si le projet, c'est surtout pas l'hôpital, moi, ça me poserait vraiment un problème. Après, il y a la pression de l'ordre des sages-femmes. Il y a la pression, on va dire, plus globale du corps médical qui est persuadé que c'est plus dangereux, alors qu'il y a un tas d'études internationales qui montrent bien que dans la situation très cadrée hein, de grossesse normale, de femmes en bonne santé, avec des limites qui sont très claires, hein, c'est à 1 heure d'un centre hospitalier. Enfin, on n'est pas non plus à 3 jours de marche. Voilà, avec des limites comme ça, quand on fait des suivis de grossesse normales de femmes à bas risque, il n'y a pas plus de risque sur un accouchement à domicile qu'un accouchement à l'hôpital. Le risque, il est aussi inhérent à la vie, quoi. Mais malgré ces études très scientifiques, malgré toutes ces preuves qui sont apportées, on continue à véhiculer l'idée que ça peut dégénérer comme ça. Alors que ce n'est pas le même suivi. Hein. Une femme qui est suivie pour un accouchement à domicile, elle est suivie de A à Z par la même personne qui la connaît très bien, qui est du coup seule avec elle, donc avec un état de vigilance qui n'est pas le même que celui d'une sage-femme qui est à l'hôpital avec trois femmes en même temps et puis qui ne connaît pas la patiente et puis qui sait qu'en même temps, si ça dégénère, de toute façon, y a aussi la structure autour d'elle. Donc ce n'est pas la même chose. Donc je crois qu'il y a une petite incompréhension entre ceux qui sont dans les milieux hospitaliers et ceux qui sont à l'extérieur. Et que c'est en train de basculer parce qu'on voilà, on fait pas le poids et que il y a pas de soutien. Il y a les assureurs qui ont lâché il y a 10 ans, ils ont arrêté de vouloir assurer les sages-femmes. Donc depuis 10 ans, les sages-femmes sont plus assurées.
Et ça veut dire quoi ça alors que
ça veut dire que tout professionnel est dans l'obligation d'avoir une assurance professionnelle en cas de problème. Et nous, personne ne veut nous assurer. On nous assure en disant non, sauf pour les accouchements. Et quand on a remonter ça au niveau du Conseil d'État en disant il y a un problème, on a le droit de le faire, c'est dans nos compétences, mais on n'a pas d'assurance. On nous a dit on va vous trouver un assureur. Donc ils ont trouvé un assureur qui nous propose des assurances à 24 000 euros par an, c'est-à-dire le même tarif qui est calculé pour les gynécologues, par exemple, qui eux voient toute la pathologie, les femmes qui posent problème, etc. Et sans tenir compte du bas risque qui nous concerne. Et en plus, il faut savoir que les gynécologues, eux, ils ont 60% de leur assurance qui est prise en charge par la Sécurité sociale. Mais nous, de toute façon, ça ne correspond pas du tout à nos revenus. La plupart des sages-femmes libérales, elles ne gagnent pas 24 000 euros par an. C'est même pas notre bénéfice. Est-ce que ça peut vous amener à
quitter le métier ?
Sur la partie accouchement à la maison, il y en a plein qui ont déjà jeté l'éponge parce que le risque, il est quand même pas moindre. C'est 45 000 euros d'amende, 3 ans d'emprisonnement et une interdiction à vie d'exercer.
S'il y a un problème...
Simplement parce qu'on n'a pas d'assurance.
Ah oui, donc de tous côtés, vous êtes pas très confortablement...
C'est pour ça qu'il y a une cinéaste, une réalisatrice... qui avait fait un film qui s'appelle « Entre leurs mains », en partant justement de ce constat, quand elle avait entendu parler de cette problématique, alors qu'elle n'était pas spécialement concernée, elle n'a pas d'enfant, tout ça, elle s'était dit « Mais alors, si c'est si compliqué que ça, pourquoi elle continue, les sages-femmes ? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à vouloir accompagner ces femmes à la maison ?» Et au travers de ce film, elle expliquait justement qu'est-ce qui se passait justement à la maison. Et on en revenait à l'idée que finalement, ce n'était pas faire l'apologie de l'accouchement à la maison, ou alors... noircir le tableau de ce qui se passe à l'hôpital. Je vous le disais, des hôpitaux comme on a ici à Digne ou à Manosque, c'est des hôpitaux qui sont à taille humaine, où il y a des belles naissances respectées. Et c'est plutôt ça qu'il faut défendre. Et je crois que c'est ça auquel les femmes, enfin les couples ont droit. C'est à avoir une naissance respectée. C'est que ce ne soit pas un démoulage à la chaîne avec des protocoles inhumains, même si on enveloppe un peu tout ça en disant « mais c'est pour votre sécurité ».
Donc c'est vraiment respecter, c'est ça. Alors ça veut dire prendre soin. Bien sûr, on prend soin même en milieu médicalisé, mais c'est plus d'humanité autour du couple et du bébé. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment l'accouchement respecté ?
Pour moi, ça serait vraiment respecter l'individualité, respecter le rythme de chacun. Hein, on sait très bien qu'une grossesse... Théoriquement, c'est 41 semaines d'aménorrhée. On sait très bien que chaque bébé est différent, qu'il y en a qui naissent avant, d'autres après, que le temps qu'il faut au bébé pour naître, il est différent pour chacun, que les raisons pour lesquelles la femme elle a fait ce bébé, elles sont différentes pour chacune, qu'on n'a pas à avoir de jugement, on n'a pas à vouloir formater tout ça et vouloir que tous les bébés naissent pile au terme théorique. Et voilà, je crois que c'est tout ça. Et que ce n'est pas la même chose selon... le vécu même de chaque femme et de chaque couple, et comment on peut... Et c'est pas à l'encontre de la sécurité, c'est ça que je crois où on se trompe. Mmh. C'est que quand on connaît l'histoire de chacun, quand on connaît les peurs, quand on connaît les préoccupations, et ben on repère du coup beaucoup plus vite les choses qui peuvent poser problème. Plutôt que de vouloir mettre tout le monde dans le même sac en disant comme ça, si jamais on est dans le cas de figure où ça va pas, et ben parce qu'on génère un stress énorme, qui les coupent de leurs compétences et de leur la sécrétion hormonale qui va être nécessaire à l'accouchement.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez de de cette... est-ce qu'on peut parler d'habitude, mais souvent à l'hôpital, on provoque un accouchement. Alors, les mauvaises langues diront c'est pour le confort du gynécologue ou de la sage-femme, la personne qui va accoucher, pour dire, voilà, dans 3 heures, c'est fini et je peux rentrer chez moi, ou c'est le week-end.
Je crois que quand même, c'est un petit peu exagéré, parce que, surtout ici, hein, on est dans des hôpitaux publics et les gynécologues, ils ne sont pas là à la naissance. Ils viennent qu'en cas de problème, mm-hmm. et ils ne sont pas payés au moment de l'accouchement. Enfin, mm-hmm. ils sont de garde, etc. Donc, ils ne cherchent pas, et ça se fait de moins en moins, des déclenchements pour convenance. Parce que souvent, effectivement, les déclenchements de convenance, c'était pour convenance du personnel. Hein. Mm-hmm. Ça, je crois que c'est quand même vraiment anecdotique. En revanche, il y a encore des déclenchements pour raison médicale et qui peuvent parfois être un peu discutés, parce que c'est pareil. Quand on a eu un cas de bébé qui est né après terme et ça posait problème, et du coup, après, on a peur, on déclenche tout le monde dès qu'on arrive au terme. Et que peut-être il faut revoir nos bases à nous, professionnels, de la physiologie et de qu'est-ce qui fait que là, on peut se donner encore du temps pour ce bébé-là. Ça ne sera pas valable pour tout le monde. Et ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Ce n'est pas en disant, ah ben non, il y en a qui prolongent leur grossesse et ils vont très bien, donc on va laisser tout le monde prolonger. Non, mm-hmm. c'est avec un accompagnement, c'est avec de la rigueur. On peut être dans beaucoup de souplesse avec beaucoup de rigueur. On peut avoir un suivi très... présent, très, très rigoureux d'une patiente, tout en étant, en adaptant à sa personnalité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui devrait encore être travaillé dans certaines équipes. On y viendra peut-être. Après, ça, c'est chacun aussi. Il y a des gens qui sont plus ou moins motivés aussi pour faire entendre ça, et d'autres pour qui c'est pas un problème.
Hélène Sautrio, on va faire une petite pause musicale encore, et puis on se retrouve juste après, et on va peut-être venir à cette semaine mondiale de l'accouchement respecté, justement, puisque c'est à partir de la semaine prochaine ou par là. À tout de suite.
Ayo e kukunga wasenga, unyenge mwapa moto, mami nyanga tingemba musuka, mondene no sikanga ndoninka. Suba lambo
wenge fufu ni saka ngomba. Depuis quand même? Eh yeah. Makabo na posi ngando buki moto mangamba. Oruwo. Selemba yako son na malaba munenge mangamba.
Oi 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 salo sona mama.
Una imba wone mbenge mukoti mbe monyolo mama.
Oi 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 salo sona mama.
Kima kangila muna tikinde dala bewudu.
Oi 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 salo sona mama.
Seleso timbambo e odemba sona mbongo e.
Oi 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 salo sona mama.
Et on poursuit cette émission autour du métier de sage-femme avec Hélène Sautrio, sage-femme en profession libérale à Digne-les-Bains. On a fait un petit tour, un grand tour de la profession. On va revenir à la, puisque à partir de, je crois que c'est à partir de la semaine prochaine, la semaine mondiale de l'accouchement respecté. Alors depuis quand ça existe et qu'est-ce que, enfin ça a quelques années, 2004 je crois.
Oui, je dirais c'est ça, c'est quand même assez récent. Après.
Et quel était l'objectif de cette semaine mondiale de l'accouchement respecté?
Là, j'ai pas bien bossé avant de venir, mais je crois que en fait, de ce que j'en comprends moi en tant que sage-femme, c'est que c'est plus un événement qui permet de sensibiliser, comme on le fait aujourd'hui, sur ce que peut être une naissance et pourquoi tout ça, quoi. Comme on m'a dit parfois, pourquoi tout ce tralala alors que voilà, on est en 2015 et qu'il y a plein de moyens modernes pour. Parce que je pense que l'accouchement respecté, c'est quelque chose qui va au-delà de la simple naissance d'un enfant. C'est aussi la femme qui se découvre, le couple qui justement
se découvre aussi.
Se découvre et voilà,
dans une autre fonction.
Retrouve un équilibre. Enfin, que c'est ça. Il y a des enjeux vraiment de société derrière que la puissance de cette femme. Je pense que je vais quand même le dire, hein, mais je pense qu'il y a une peur de cette puissance et que si chaque femme sentait cette puissance-là, ça déséquilibrerait un petit peu la planète, hein, si on avait toute conscience de ça. Donc peut-être qu'inconsciemment, il y a des blocages aussi à ce niveau-là. Mais donc c'était un peu, je crois, un événement pour, venant sûrement des usagers, hein, des couples qui voulaient pouvoir encore avoir le choix d'accueillir leur bébé comme ils le souhaitaient, au moment où ils le souhaitaient. Et puis si c'est bien donné comme mondial, c'est aussi qu'au niveau mondial, il y a des endroits où la naissance, ça reste encore très compliqué et il y a encore des vraies maltraitances aux femmes enceintes et il y a encore des endroits où elles n'ont pas du tout accès au moindre accompagnement donc c'est des problématiques très différentes, hein. Nous on n'en est heureusement pas.
C'est vrai, on n'a pas parlé de ce public-là, effectivement, de femmes très jeunes, puisqu'il y a des pays où des filles de, je sais pas, de 9, 10 ans peuvent. Est-ce que ça arrive de mettre au monde un enfant à cet âge-là?
Bah c'est un peu l'exception, quand même.
C'est un peu l'exception. Mais en tout cas, à 12 ans, voilà, ouais. 12 ans, une jeune fille peut se retrouver mère. Mmh. En France, ça n'existe qu'en. Ben, je pense pas trop, ou on n'en parle pas.
Oui, c'est très anecdotique quand même. Mais c'est tout ça. C'est comment, encore aujourd'hui, malgré l'accès à la contraception, malgré les progrès qui ont été faits en médecine pour accompagner les grossesses et faire en sorte que la mère et l'enfant aillent bien, comment est-ce qu'on est encore vraiment dans le respect ? Est-ce que c'est pas nous, professionnels médicaux, qui prenons des décisions parce qu'on pense que c'est bon pour l'autre alors que c'est pas forcément son souhait ? Comment on n'a pas tous le même accès aux soins malgré les systèmes de prise en charge, sécurité sociale, aide médicale d'État et autres, comment, selon la géographie, selon l'habitat qu'on a, on ne va pas avoir les mêmes possibilités non plus. Et voilà, c'est pour ça que, ne serait-ce que pour ça, cette semaine, c'est intéressant de l'évoquer, de parler de ces naissances respectées, parce que je crois que c'est pas... il faut arrêter avec ses peurs. Hein, la peur, elle n'est pas constructive. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle fait vendre. Mais l'accouchement, l'arrivée d'un enfant, c'est avant tout un moment fabuleux et important dans la vie d'une famille, avant d'être un grand danger. La vie est un risque. Et c'est bien d'en avoir conscience, on en prend encore plus conscience au moment de la naissance parce qu'on se rend compte que le petit être à qui on donne la vie, ben un jour il va mourir. On espère après nous, comme ça on sera plus là. Mais c'est quand même avant tout un événement fabuleux et fondateur. Et c'est parce qu'on est avec cette pression-là, avec ce risque-là qui fait que chaque individu qui est en train de naître, là je parle vraiment du bébé qui va naître, il va trouver ses ressources pour survivre et pour vivre. Et c'est ça qui nous construit aussi. C'est un petit peu ce qui était évoqué dans le film qu'on a vu au Ciné Étoile.
Alors oui, justement, on va y venir. Ce film s'appelle Loba et il montre différents accouchements dans différents pays.
En fait, c'est une ostéopathe française qui a un petit peu voyagé, qui a suivi un petit peu au gré de ses rencontres des femmes et des sages-femmes. Et en ce sens-là, c'était assez intéressant comment elle allait montrer comment justement la peur, c'est pas qu'ici, hein, en Amérique du Sud c'était pareil, en Espagne où elle est tournée aussi. On va sous couvert de sécurité empêcher le processus normal de la naissance parce qu'on pense que ça va aider l'enfant alors que quelque part on le coupe de ses propres ressources initiales. Donc qu'est-ce que ça fait après dans une vie? Je ne sais pas. C'était très intéressant pour ça. C'était intéressant d'avoir des témoignages de sages-femmes au Mexique par exemple qui sont pas des sages-femmes formées comme chez nous mais qui sont des sages-femmes qui se formaient de génération en génération. Mmh. Et qui s'appuyait sur des connaissances ancestrales et qui surtout s'appuyait sur cette force-là qu'a la femme. Après, forcément, c'était du coup... moi, ça m'a un petit peu gênée parce que c'était un petit peu caricatural avec l'accouchement très médicalisé, très irrespectueux, beaucoup trop interventionniste. Et puis de l'autre côté... les femmes mexicaines qui accouchaient toutes seules, enfin ou presque, avec des petites herbes. Et je trouve que ça donne une vision aussi tellement... c'est pareil, c'est tout noir ou tout blanc, et c'est pas la réalité, et c'est pas la réalité de chez nous. Mmh. Et je crois qu'il faut arrêter de créer là aussi encore du stress en disant « Mais attention, méfiez-vous, renseignez-vous, vous pouvez ne pas être respecté lors de votre accouchement, etc. » Mais plutôt de faire réfléchir à de quoi on a besoin pour se sentir bien, se sentir respecté et accueillir cet enfant. Mais c'était quand même intéressant, et surtout c'était intéressant d'avoir un débat après avec les...
Alors justement, est-ce qu'il y a eu du monde dans le public pour assister à ce film et puis des questions de la salle?
Alors il y avait beaucoup, beaucoup de couples, beaucoup de femmes enceintes. On était pas mal de sages-femmes libérales. J'avais confié tous les professionnels de l'hôpital, surtout de Digne. Et malheureusement, je le déplore, il n'y avait encore personne. Je crois qu'ils sont dans... justement un petit peu dans un autre fonctionnement, un autre rythme. Et je sais, il y en a certaines qui m'ont répondu, ça tombait, c'était le hasard, elles n'étaient pas disponibles. Donc je sais bien qu'il y en a, c'est pas qu'elles ne se sentaient pas concernées, mais malheureusement, elles n'étaient pas présentes. Et j'aurais bien aimé qu'elles soient là pour venir témoigner justement de tous les possibles à l'hôpital, quoi, et de ne pas avoir ce... Et après, dans tous les couples qui étaient là, ben, c'était pas, on n'était pas très très nombreux, hein, je ne saurais pas dire le nombre exact, mais pour Digne... C'était un jour de grand ciel bleu, on était une trentaine, c'était déjà pas mal. Mais c'est sûr qu'après, il y a eu plus des témoignages que des questions, donc c'était assez émouvant et c'était un peu compliqué pour moi d'animer le débat au début parce que je me suis dit, mais en fait, quel est le but quoi, de ces échanges? Mais ça a réveillé des histoires chez chacune et donc elles ont témoigné. Et je savais, je voyais bien qu'il y avait plusieurs patientes que je connaissais qui étaient là, qui étaient enceintes, et il y en avait d'autres qui témoignaient de justement leurs difficultés lors de leur accouchement. Donc après, il fallait arriver à retirer ce qu'il y avait d'important dans leur témoignage et pas faire en sorte que tout le monde reparte terrorisé par le récit. Et en même temps, il y avait des récits idylliques d'accouchement à la maison... Et ce qui n'est pas non plus le choix de tout le monde et qui en plus peut pas se faire pour tout le monde, donc il fallait surtout pas tomber dans ce cliché là et je crois que c'était assez bien pour ça parce que mes collègues libérales qui étaient là ont aussi témoigné de leur pratique. Il y a Claire Cassan qui avant était à l'hôpital et qui maintenant s'est installée au Mets et qui était aussi là pour répondre, donner aussi sa vision d'hospitalière. Il y avait aussi Anne-André Fiorucci qui est à Riez et puis Marie Villès qui est à Villeneuve. Donc on avait quand même une bonne représentation avec des pratiques différentes et j'espère que ça a pu répondre un petit peu aux questions des gens et à travers ce film, au moins évoquer un petit peu le processus de la naissance autrement que ce qu'on voit d'habitude dans les séries télé très médicalisées. Voilà.
Donc une expérience plutôt... vous diriez à renouveler pour mieux faire connaître la profession.
Oui, ça c'est moyens. Sûr que je trouve que c'est des expériences intéressantes et je remercie le Julien Barbier là du cinéma de m'avoir proposé ça parce que moi je connaissais même pas le film hein, et c'est toujours intéressant d'accompagner justement ce genre de film pour que ce soit constructif. Je l'avais fait il y a 6 mois avec Entre leurs mains, là, le documentaire dont je vous parle, que je connaissais bien. Et je crois que c'est des séances qui sont toujours enrichissantes parce que quand chacun est devant sa télé, devant une émission de télé-réalité, là, où il voit des femmes accoucher dans un hôpital avec toute la médicalisation, la musique qui fait peur derrière, non seulement ils n'ont que cette vision-là, mais en plus ils sont seuls. Ils sont seuls par rapport à ce que ça leur renvoie, et c'est ça aussi qui est important dans ce monde de l'information, c'est que les informations elles soient aussi un partage. Ça, l'expérience elle se transmet pas, par contre elle se partage. Et si en plus on peut accompagner pour que ce partage il soit constructif et que ce soit pas juste un forum où à la fin tout le monde a le moral à zéro, c'est ça qui est intéressant. Donc oui, bien sûr, c'est à renouveler. Après, il y a certainement en plus d'autres sujets ou d'autres films autour de la femme qui pourraient être très intéressants. Et comme je vous disais, le sujet, il est bien plus vaste que le simple accouchement, quoi. Il est vraiment sur... On pourrait faire la même chose autour du thème de la féminité ou de la femme tout court. Ça serait tout aussi riche.
Si on est bientôt proche de la fin de l'émission, quelles sont vos motivations aujourd'hui, puisque ça fait 17 ans que vous faites ce métier, vous n'êtes pas que sur les accouchements, qu'est-ce qui vous, ou vos plus beaux souvenirs, ou vos moins bons souvenirs, est-ce que vous avez vécu des moments de stress vous-même en étant accompagnante
Ah oui, c'est sûr que je crois qu'on prend conscience de j'en ai même la voix qui tremble, d'être les témoins de petits instants d'éternité comme ça qui sont hyper émouvants. À chaque fois qu'on a un enfant qui qui pointe et qui, on voit le sommet de son crâne arriver, moi j'ai toujours un espèce de frisson qui m'envahit comme une espèce de surprise, quoi, quand même. Ah bah ça alors ? Alors que bon, je le savais qu'il y avait un bébé qui arrivait, mais il y a un espèce d'instant magique et ça qui se renouvelle à chaque fois, c'est ça qui est extraordinaire. Donc ça me motivera tant que ça arrivera. Hein. Après, je crois qu'il y a vraiment tout le reste, quoi. Je me rappelle d'un père il n'y a pas longtemps qui, je suis arrivée juste un peu trop tard, le bébé était déjà né, et le père me dit « ça y est, elle est là, et tu te rends compte, c'est moi qui l'ai accueilli ». Et je lui dis, mais même si j'avais été là, t'aurais pu le faire aussi. Il me dit, mais j'aurais jamais osé. Et je trouve ça fort, quoi, de pouvoir justement, même quand je suis là, pouvoir laisser cette place-là aux gens pour vivre ces expériences qui sont apparemment très importantes pour eux. Et après, j'ai aussi un autre témoignage, justement, dans tout le domaine de l'accompagnement des femmes, d'une femme qui m'a confié un jour, des années et des années après la naissance de ses enfants, alors qu'elle venait complètement pour autre chose, qu'elle a lâché lors d'une question autour de ses accouchements, justement sa tristesse de ne pas avoir été respectée. Et moi, je me suis retrouvée très, très touchée par ces larmes qui sont sorties 15 ou 16 ans après. Et en même temps, je me suis dit, non, moi, je suis juste là pour accueillir ça. Et heureusement que ça sort, même si c'est maintenant, quoi. Et de pas rentrer justement dans le pathologique, de dire « Oh, ma pauvre, c'est horrible !» Non, mais de dire « vous avez le droit d'avoir trouvé ça dur, mais maintenant, vous pouvez le poser, ça, et vous pouvez passer à autre chose, et ça peut être autrement, et on peut transmettre ça aux générations futures. » Et ça, je trouve ça fabuleux, quoi. Et là, je me dis « Je sais pourquoi je suis là. » De pouvoir simplement accueillir ça entre mes mains, justement.
Hélène Sautriau, merci beaucoup pour votre témoignage. Et s'il y a quelque chose, vous avez encore quelques minutes, d'important que vous auriez envie de dire, ou des rendez-vous à donner, ou des projets que vous avez, des envies pour votre travail aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des projets ?
Moi, je dirais que mes projets, ils sont beaucoup autour de justement de plus de fluidité entre les professionnels, que les femmes elles puissent sentir que on est tous là pour les accompagner, que ce soit mes collègues hospitalières, les sages-femmes qui travaillent aussi au niveau du conseil général en PMI, en protection maternelle et infantile, enfin qu'il y a un vrai réseau qui peut se créer et essayer de transmettre justement à mes collègues aussi, c'est ce que j'ai découvert à travers les femmes et qui est de justement garder notre place d'accompagnant et de ne pas se positionner comme ceux qui font, ceux qui accouchent, quoi. Moi, j'ai jamais accouché personne. J'ai accouché, mais j'ai jamais accouché personne. Et ça, c'est important. Et que chaque femme sache que, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours elle qui accouche.
Ça, c'est beau. C'est, c'est pas peut-être ce qu'on entend de toutes les sages-femmes. Donc, vous êtes une accompagnante.
Voilà. Donc, si on pouvait changer la définition du dictionnaire et que le verbe accoucher puisse seulement se conjuguer à la. J'accouche, mais pas je suis accouchée, ça me plairait bien. Je sais pas à qui il faut que je m'adresse pour ce petit changement de lexique, mais voilà.
En étant dans une petite ville comme Digne, c'est quand même comme un grand village, vous avez été amenée, bien sûr, j'imagine, à voir les bébés que vous avez. Vous avez assisté à leur éclosion.
Oui, c'est aussi un vrai plaisir, c'est de recroiser les gens avec le secret professionnel qui me permet de vraiment le faire en discrétion, mais en même temps avoir le plaisir de recroiser les femmes, les enfants, les petits frères, les petites sœurs au fur et à mesure, et puis maintenant même des enfants qui viennent justement, qui sont devenus des jeunes femmes et qui commencent à venir, enfin que j'ai vu tout petite. Et ça, c'est effectivement assez riche. Moi, je trouve ça, d'avoir un petit peu cette relation, comme l'ont les médecins traitants quand ils sont vraiment des médecins référents de famille un petit peu, hein, quand on devient un petit peu comme faisant partie de l'univers familial, quoi. On est la sage-femme. J'aime bien quand... quand on utilise le possessif, ça ne me dérange pas du tout quand on dit c'est ma sage-femme. Alors que pourtant, si justement on s'en tient qu'à l'accouchement, c'est qu'une toute petite partie de la vie. Mais on l'est pour toujours, quoi. On a partagé ce moment très fort ensemble. Peut-être qu'on a partagé que un moment du suivi de grossesse ou un moment de l'après, mais c'était important. C'était important pour eux, c'est important pour moi. J'apprends à chaque fois et j'ai un vrai plaisir à travailler dans cette région pour ça aussi, quoi.
Est-ce que vous auriez envie de donner un conseil aux femmes qui peuvent nous écouter ? Est-ce qu'il y a un blog où on peut avoir des informations ? Est-ce qu'il y a une adresse, un site ?
Juste donner, c'est vraiment très, très vaste, mais il y a le site de l'Association nationale des sages-femmes libérales, qui s'appelle l'ANSFL. Donc, ça s'écrit ANSFL.
ANFSL, et ça veut dire
SFL, Association nationale des sages-femmes libérales. Donc c'est un site où il y a aussi une partie d'informations pour les familles. Et puis sinon, plutôt, oui, d'aller rencontrer, j'en reviens, c'est pas pour parler de moi, mais pour parler vraiment de l'ensemble des sages-femmes. Voilà, si vous êtes une femme, si vous avez des projets, un projet d'enfant, si vous êtes enceinte, si vous n'êtes pas enceinte, si vous ne voulez pas l'être, voilà, allez rencontrer les sages-femmes, parlez-en aussi avec votre gynécologue ou avec votre médecin traitant, si c'est des gens avec qui vous pouvez parler de ça. Mais oui, allez parler de ce qui vous préoccupe et on est là pour ça.
Juste avant de vous quitter encore, on a parlé de la naissance, bien sûr, et des peurs, mais il y a aussi les peurs qui empêchent d'avoir des enfants. De plus en plus, le stress dans notre société, il y a tellement de peurs de ne pas y arriver, que ce soit le chômage, les familles qui éclatent. Est-ce qu'on peut venir vous voir aussi pour... Dans ces cas-là où c'est...
Oui, ça s'appelle la consultation préconceptionnelle. C'est vraiment... c'est pour répondre aux questions des gens qui auraient un projet d'enfant. Après, si bien sûr que moi, je vois qu'il y a des couples qui sont avec des peurs plus profondes, ça ne va pas forcément être de ma compétence de les accompagner, mais je peux être le relais pour leur donner des pistes.
Les aiguiller, voilà. Vers la bonne personne, voilà. D'accord. Hélène Sautriau, merci beaucoup.
Merci
et
à
puis,
vous.
Et bien, au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Au revoir.
Au revoir.
Dis-le-moi, petite douce, irrésistible, ton regard, c'est des mots, c'est tellement beau, qui parle à petits mots, et c'est comme un souffrant soupir qui fait du bien. Passe à petits pas près de toi, là, écoute le souffle de bout. Comme une belle sensation, parfois chaude et des frissons, comme le vent. Là-bas à Rio, en haut du Kilimanjaro, et c'est comme un enfant qui prend ta main, qui marche à petits pas près de toi là.
Qui ça?